Bonjour à tous et merci d'avoir été assez vaillants pour nous suivre, pour nous rejoindre et pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Parce que ne vous a pas échappé, une espèce de crise sanitaire s'est abattue sur plus que notre pays, le monde entier, mais que nous considérons que ce n'est pas une raison pour ne plus penser, pour ne plus réfléchir et surtout pour ne pas, y compris, réfléchir à comment agir. Agir dans une perspective constituante, vous savez bien que c'est notre credo, notre dada, notre passion et notre but. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir avec un invité de marque, un invité quand même qu'on ne rencontre pas tous les jours et qui se trouve être Edwy Plenel qui est directeur de Mediapart, qui est aussi le fondateur de Mediapart et qui va réfléchir avec nous à une question précise. Quel pourrait être le rôle des médias dans un processus constituant ? Et pour ce faire, donc, j'ai encore un de mes compères qui est là, mon compère vaillant, François Coq, qui m'a rejoint pour qu'on puisse réfléchir ensemble à cette question, sachant qu'on ne voudrait pas ici se fourvoyer, c'est-à-dire qu'on va essayer de focaliser l'attention sur vraiment le processus constituant. Ce n'est pas tant la question de l'avant, c'est-à-dire, on va dire, les médias sous la Ve République, etc. Non, on se pose la question de savoir si, dans un processus constituant qui monte, qui se goupille, quel devrait être un rôle de médias, soit en faveur, soit au moins en accompagnement d'un tel mouvement. Est-ce que c'est envisageable? Et donc, je disais, on se focalise sur le moment constituant, le processus constituant, et pas tant non plus sur l'après. Quels seraient des médias, par exemple, en 6e République? C'est pas, on peut en parler, évidemment, mais je pense que c'est pas ce qui nous intéresse au premier chef, puisque nous réfléchissons avec les constituants au processus, à la dynamique constituante. Donc voilà ce qu'on voudrait te poser comme question, savoir un petit peu comment... d'abord, est-ce que tu y as réfléchi? Moi, il me semble quand même que tu n'es pas le dernier à réfléchir à la manière dont le peuple bouge, et donc y compris à quel devrait être le rôle d'un média par rapport à ce mouvement-là. Donc c'est cette question-là qu'on voudrait poser.
Alors, très immodestement, j'allais dire que une partie de la réponse est dans ce livre que tu as à tes côtés. Là,
on en profite.
Qui vient de sortir, La sauvegarde du peuple, qui revisite au fond comme un remonté aux sources et aux sources révolutionnaires, celles de la Révolution française, mais aussi en dialogue avec la Révolution indépendantiste américaine et la Révolution parlementaire britannique du XVIIe siècle, aux sources révolutionnaires de cette question que tu poses. Pour moi, la réponse, c'est que un processus constituant, c'est un processus où va s'inventer de l'inédit, de l'improbable, avec des courants, des propositions, des discussions, des solutions. Quelle est la condition pour que ce processus constituant aille à son terme? C'est qu'il y ait la vitalité d'un espace public pluraliste et démocratique. Ma réponse n'est pas du côté des professionnels. Je pense depuis longtemps que le journalisme, ce n'est pas un privilège des journalistes, justement. Il est au service du droit de savoir des citoyens. Et donc, quand on revoit la séquence de la Révolution française de 89 à 94, les cinq années qui vont amener à la Constitution de l'an 1, qui ne sera jamais appliqué, la guerre est aux frontières et la terreur l'interromperont, mais on sait tous que cette constitution de l'an 1 de la République, c'est celle qui a la déclaration des droits de l'homme la plus aboutie, la plus sociale, la plus radicale. Eh bien, cette dynamique, souvent, l'historiographie traditionnelle nous la raconte en montrant les grands orateurs, en montrant les grands discours. Et depuis quelque temps, d'autres historiens, et j'y ai apporté ma pierre dans ce livre, nous raconte que derrière, il y avait autre chose qui se passait. C'est comment l'opinion se constituait, comment le peuple lui-même se constituait, des choses qu'on ne sait pas. C'est d'ailleurs que la Révolution française est une révolution du journal, un petit peu technologiquement comme la nôtre avec le numérique. Il y avait d'une part, il y a une explosion du nombre de journaux, c'est-à-dire que la révolution de l'imprimerie devient quelque chose de populaire, très concret, mais pas seulement la révolution de l'imprimerie. Il y a quelque chose qui se vendait à Paris du côté du Palais Royal, là où il y a aujourd'hui la Comédie Française, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. C'était les nouvelles à la main, ce qui est l'équivalent de nos blogs. C'est-à-dire, comme je n'ai pas de l'argent pour imprimer mon journal, ben, j'en copie 20, 30 exemplaires. Et comme nos blogs, comme les réseaux sociaux, il y avait le pire et le meilleur. Donc le pire, bien sûr, qu'il y a les bruits, les rumeurs, la reine scélérate, Marie-Antoinette, sa sexualité, etc. Puis de l'autre côté, évidemment, le meilleur. Et le meilleur l'emportait. Les débats révolutionnaires, les propositions, les alertes. Les lanceurs d'alerte existaient. Ils disaient ce qui se passait. Et donc, je pense... La première réponse, elle est celle-là. Et ce que je revisite dans ce livre, c'est cette phrase qui a débordé tous ses protagonistes, qui est « la publicité est la sauvegarde du peuple ». Une phrase, à l'époque, le mot « publicité » n'est pas saisi par la marchandise. Et mon enquête sur cette phrase « oubliée », qui est une proclamation du premier maire de Paris, le 13 août 1789, qui va se retrouver sur les médailles des colporteurs de journaux, qui va être prise par Robespierre, par Camille Desmoulins, et qui va continuer par Gracchus Babeuf après. Et dans le livre, on voit qu'elle continue jusqu'en Belgique et chez des ultra-révolutionnaires démocrates en Belgique. Cette phrase qui va déborder son propre auteur, Jean-Sylvain Bailly, ceux qui connaissent l'histoire de la Révolution française savent qu'il va, hélas, après avoir été un homme de transition entre l'Ancien Régime et la Révolution, un homme qui avait déjà passé 50 ans, un académicien de 3 académies, etc., et qui était un peu un égaré, hein, il est emporté par ce flot, il devient le premier maire de Paris après avoir été le premier président du tiers-état et le premier président de l'Assemblée nationale. Il est un bon administrateur, mais il commet un crime, hein, sous la pression de ceux qui ont peur de la dynamique révolutionnaire. On est encore, il n'y a pas encore la République, il y a la fuite à Varennes, on rattrape le roi, et là, il y a le basculement, 91, au Champ de Mars, il donne l'ordre de tirer sur une foule assemblée pacifiquement, qui avait son droit de réunion, et comme le dira même un de ses biographes républicains, François Arago, là, sa faute est impardonnable. Ça le fera condamner par le tribunal révolutionnaire. Il acceptera cette sentence, il sera exécuté. Mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain, car sa phrase, Camille Desmoulins, c'est intéressant. Quand il y a la dictature, et c'est là le risque, hein, le risque, parce que nous avons appris de toutes nos histoires, quand la dictature, qui est une dictature d'assemblée, de comité de salut public, en vient elle-même à mettre en cause les libertés qu'elle a défendues. Quand Robespierre lui-même en vient à contester cet espace public. C'est lui qui a fait les plus beaux discours sur le droit de pétitionner, le droit de s'assembler, la liberté de la presse et de s'informer et de discuter radical. Et à ce moment-là, Camille Desmoulins le lui oppose. Il dit « Bailly, qui est mort, était plus républicain que nous. La publicité, la sauvegarde du peuple. » Donc moi, ma réponse, elle est celle-là. Il faut faire confiance à l'intelligence collective. Il faut faire confiance à la dynamique collective, à l'élaboration collective. Et je dirais ça parce que moi, je parle d'un endroit qui est un laboratoire pour comprendre ça. Pourquoi Mediapart marche? On peut se dire, tiens, ils font un bon journalisme, ils font des scoops, ils font des enquêtes. Non, bien sûr, mais ça, on savait faire avant. Y compris, on peut faire ça dans une presse classique. Qu'est-ce qui est la particularité de Mediapart? C'est d'être un journal qui a joué totalement le jeu de ce que permet, par rapport à cette question constituante, ce que permet l'interaction, la relation, hein, le partage de la technologie numérique. Comment une révolution industrielle appelle une révolution démocratique. Ce que je crois, hein, tous les moments, on pourrait le dire sur la Révolution française, c'est l'imprimerie, mais la deuxième révolution industrielle, c'est l'électricité, donc la presse devient très peu chère à fabriquer, et c'est le moment républicain. C'est le moment de la presse populaire, c'est le moment de la presse à un sou, c'est le moment où tout le monde lit, et c'est le moment des grandes lois républicaines, c'est le moment où, face à l'extrême droite de l'affaire Dreyfus, eh bien, il y a une autre presse qui se dresse, etc. Et une presse, et puis l'humanité, Jaurès va dire, il nous faut un journal, etc. Donc, je pense que nous devons prendre en compte ça, c'est-à-dire, je suis très frappé, par exemple, beaucoup d'organes militants tiennent leur blog, tiennent leur site, mais ils ont peur de quelque chose. Ils ont peur de ce partage numérique. Chez nous, vous le savez, et y compris dans certains moments politiques, ça a fait des tempêtes, on a le droit de critiquer Mediapart. La modération est a posteriori. Quand Mediapart a été contesté, par exemple, pour, par rapport à ceux qui nous écoutent dans un épisode de, concernant la France insoumise, bon, bah, cette critique s'est exprimée radicalement sur Mediapart. Les gens, je vais me désabonner, c'est pas bien, etc. Bon, et je suis surpris de voir qu'à l'inverse, beaucoup d'univers engagés et qui utilisent la technologie numérique n'acceptent pas cette idée de... Bah, voilà, on contribue. Et la modération est a posteriori. Il y a une charte, mais j'accepte. Elle est a posteriori. J'accepte ce débordement. J'accepte d'être bousculé. J'accepte cette surprise. Je ne suis pas un professeur qui le contrôle d'en haut. Donc, ma première réponse, elle est celle-là. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment, et pour terminer, je suis un peu long, mais je voudrais dire parce que nous sommes dans un moment où les pouvoirs ont peur de ça. C'est très étonnant. Au fond, les libéraux ne sont plus libéraux au sens politique du terme. C'était la phrase de George Orwell. Ils ont peur de la liberté. D'où leur attaque contre les lanceurs d'alerte, hein, le sort de Julian Assange, de Chelsea Manning, qui heureusement vient d'être libéré, de Rui Pinto au Portugal, d'Edward Snowden, etc., de Glenn Greenwald au Brésil. Mais pas seulement. Ici même, en France, on a entendu parler de créer un ordre des journalistes, de remettre en cause la loi de 1881, un président qui dit « nous avons des médias qui ne cherchent plus la vérité ». En clair, il a peur de la vérité qui dérange. Et donc, nous sommes dans un moment où je dirais que cette question du droit de savoir et de la liberté de dire, je préfère le dire comme ça, justement, parce que si on dit liberté de s'exprimer ou liberté de s'informer, on a l'air de parler de professionnels. C'est un droit de tout le monde, le droit de savoir. Et la liberté de dire, c'est un droit de tout le monde. Eh bien, on est dans un moment où technologiquement, cette révolution technologique doit nous permettre, au fond, d'en faire une arme d'invention, de bouillonnement, de constitution démocratique.
D'accord. Donc, ce que tu fais, c'est que c'est un lien entre un moment technologique qui rejoint un moment politique.
Oui,
est-ce que c'est comme ça que tu as
oui,
dit
mais
ce qui
s'est passé sous la révolution ? Je pense qu'en fait, je pense que tout moment de ce qu'on appelle une révolution industrielle,
oui.
On a eu trois dans
oui,
notre
oui,
modernité, oui. Hein, c'est des moments où le rapport au temps et à l'espace est modifié. Hein,
oui.
Hein, on le sait tous, les armées de Napoléon n'allaient pas plus vite que les armées de César, et tout d'un coup, le temps s'accélère. Hein, on le vit là, on le vit, et nous, on le vit aujourd'hui, on est dans l'immédiateté, on peut oui. savoir ce qui se passe. Donc c'est un rapport très... Ce sont des révolutions pas seulement technologiques, elles sont civilisationnelles, culturelles, mm-hmm. toutes ces machines... Mm-hmm. On voit bien que ça modifie des choses. Je dirais que la particularité de la révolution actuelle, qui est toute récente, hein, les smartphones, ça, c'est 2007.
Ouais,
2007. Donc, Mediapart se crée en 2008. Nous accompagnons ça. C'est tout récent. Je dirais que cette révolution, et de plus en plus, certains analystes le disent par rapport au digital et au numérique. On dit digital ou numérique. Mmh. C'est intéressant. Numérique, c'est le nombre. C'est les data, on peut avoir plein de savoirs qu'on n'avait pas avant. Et digital, c'est le doigt. Donc c'est aussi le rapport à l'individu qui peut lui-même agir. Et on l'a vu dans des mouvements sociaux, les gilets jaunes, ça marche comme ça. Hein, c'est pas, on s'exprime, on lance son appel. Et donc certains aujourd'hui disent, en fait, c'est une révolution comparable à l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie, c'est les clercs tout d'un coup se disent catastrophe, catastrophe. On n'est plus les gardiens, les maîtres du savoir. Ils vont apprendre à lire et c'est ce qui va se passer, d'où le fait que la Renaissance, c'est ombre et lumière, c'est à la fois, on découvre, mais des grands martyrs, comme les martyrs d'aujourd'hui, hein, Thomas More, Giordano Bruno, etc., c'est-à-dire ceux qui bougent avec ce monde, et puis les guerres de religion, et puis les conquêtes, et puis tout ça, jusqu'à les lumières, jusqu'aux idéaux démocratiques, tout ça va arriver. Et aujourd'hui, on peut se dire que le numérique, ça a la même ampleur. Tout d'un coup, les savoirs n'ont pas de gardiens qui seraient les sachants. Ils s'élaborent aussi collectivement. Les alertes, et il suffit de voir les grands enjeux dont nous parlons, les grands enjeux sociaux, les grands enjeux climatiques, les grands enjeux démocratiques. Ils viennent aussi de ce bouillonnement de la société. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que... toutes les diabolisations du peuple numérique, toute cette façon de dire les réseaux sociaux, ça tire tout vers le bas. Non, c'est le discours politique. Trump est le pire fabricant de fake news. La surveillance, quand on dit la transparence, par exemple, c'est les mêmes qui disent « attention, la vie privée sur les réseaux numériques », c'est les mêmes qui veulent faire la reconnaissance faciale généralisée, c'est les mêmes qui nous fichent les fichiers de gendarmerie récents, etc. Donc, il faut parier là-dessus. Et encore une fois, je dis au-delà qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Mediapart, il faut le regarder comme un laboratoire qui montre ça. Je termine juste. Toute la presse traditionnelle a mis fin cette année passée au participatif. Ils ont arrêté le fait que leurs abonnés puissent faire des blogs. Ils ont décidé à nouveau que les blogs, eh bien, c'est eux qui décideraient qui a le droit de bloguer ou pas. Ils ont limité le nombre de commentaires, la longueur des commentaires. Donc, c'est une erreur. C'est-à-dire que comment on donne confiance au peuple constituant? Comment on lui donne confiance dans son dialogue lui-même? Ben, en laissant jouer ça. Et en essayant, évidemment, de tirer ça vers le haut, par des contenus de qualité, par des discussions. Donc, pour revenir, un processus constituant, c'est celui où on mettrait sur la table ça, la discussion. On appellerait. Ce n'est pas le grand débat national avec un président qui parle 7 heures.
Ouais. Où on le rend. Bien... Oui, vas-y, pardon.
Non, mais c'est bien pour ça que, justement, c'est une double révolution qui, à un moment donné, se confronte. Il y a une révolution technologique c'est une révolution du peuple qui, à un moment donné, commence à s'émanciper. Ouais. Et les médias ont un rôle à jouer dans ce moment charnière, dans ce moment de bascule. Moi, je trouve très intéressant que, dans ton ouvrage, tu cites Bailly, qui, moi, a priori, n'est pas une de mes premières références, mais qui est quelqu'un qui est au cœur des processus constituants. Bailly, c'est aussi le premier président de l'Assemblée nationale constituante.
C'est lui qui lit le serment du jeu de paume.
Voilà, les 17 juin et 20 juin 1789. Et tu rappelais tout à l'heure l'épisode du Champ de Mars, quand, après avoir déclaré la loi martiale, il fait tirer sur la foule par Lafayette. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une pétition qui devait être posée sur l'hôtel de la République, qui était une pétition qui demandait à ce qu'il y ait un nouveau processus constituant.
Exact. C'est le moment où on va vers la République, hein, et où ils prennent peur.
Après la fuite à Varennes. Donc voilà, moi je trouve que ce parallèle avec 1789 est intéressant d'un point de vue technologique, mais il est intéressant aussi parce qu'en 1789, on est au moment où il y a une remise en cause de l'institutionnalité. De la même manière qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est dans un moment où le peuple commence à remettre en question l'institutionnalité. Et moi, le parallèle, je le fais par exemple sur la question des Gilets jaunes. On a vu émerger en novembre 2018 un mouvement, on le sait, au départ, qui était sur des revendications fiscales, mais qui s'est très vite traduit d'abord par des revendications démocratiques. Et c'est sur ce substrat démocratique que l'agrégation s'est faite le plus fortement. Et c'est ce qui lui a permis de s'élargir, de s'enraciner et de perdurer encore aujourd'hui et de continuer à infuser dans la société. Et donc, cette dimension-là, elle est apparue et c'est celle qui a été niée le plus possible par les médias dominants, par le pouvoir en place, y compris par les oppositions institutionnelles, parce qu'elles savaient ne pas avoir de prise avec ce phénomène-là. Donc, quel est le rôle aujourd'hui, ou quel a été le rôle à ce moment-là? Je sais que Mediapart a été très engagé, très tôt, a eu quand même beaucoup de discernement sur ce mouvement des Gilets jaunes. Quel est le rôle des médias dans ce moment de bascule? Je fais partie de ceux qui pensent que, celles et ceux qui écoutent régulièrement l'émission le savent, il n'y a pas un phénomène destituant, et puis on touche le fond de la piscine, on tape du pied et on remonte, et c'est le mouvement constituant. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Je pense qu'il y a un processus destituant qui est à l'œuvre, qui se poursuit aujourd'hui, quand bien même le processus constituant a commencé à bifurquer, lui, commencé à agréger dans la population. Et le mouvement des Gilets jaunes est l'une de ces branches constituantes. Donc comment les médias doivent pouvoir rendre compte de cela, doivent pouvoir permettre cette prise de conscience du temps constituant qui
se met en place. Je pense qu'un journalisme radicalement démocratique marche sur deux jambes. L'une, ce que j'avais expliqué, le droit de savoir. Bon. Puisqu'elle les a apportés, hein, je les montre, hein, c'est pas moi. C'est moi. Voilà, le droit de savoir. Bon, c'est un peu le côté Robin des Bois de Mediapart. Hein. On va apprendre des secrets aux puissants qui sont indûment gardés dans l'opacité des pouvoirs et on permet sur l'évasion fiscale, sur les ventes d'armes, sur la corruption, sur etc. Bon, ce droit de savoir, premièrement, voilà, l'enquête, hein, on va vous révéler ce qu'il cache. Et ça, on est au cœur, mine de rien, je vais quand même toujours rendre hommage à Julian Assange, c'est le premier qui sent ça, quand il est jeune hacker en Australie, il se dit, on est dans ce monde globalisé, avec des puissances qu'on ne va pas pouvoir renverser, puissance militaire, puissance financière, et notre violence est impuissante face à ça, face à l'importance de leur puissance. Donc on a une arme pacifique, dit-il, et il le théorise, il dit, on va les bombarder d'informations. C'est-à-dire qu'avec les leaks, hein, les fuites comme ça, les données, les métadonnées qu'on ne pouvait pas traiter avant, ben on va les mettre à nu. Et c'est quand même ce qu'ils vont faire. Hein. Et les révolutions arabes, ne l'oublions jamais, quel que soit leur sort, pour touchons du bois, la Tunisie tient, et puis de toute façon, la flamme a été allumée, elle continue. Elles viennent du Cablegate. C'est-à-dire qu'elles, non pas qu'elles ne viennent pas d'autres raisons, mais quand, en Tunisie, les gens voient les câbles diplomatiques américains et se disent, tiens, mais la corruption du clan Ben Ali Trabelsi, nous, on la connaît. Et on est sous le poids de cette dictature. Mais tiens, les Américains, non, ils la connaissent aussi. Et ils le disent, et ils la dénoncent dans leurs câbles secrets, pas publiquement. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? si même la puissance qui les protège le connaît, ayons du courage. Et il y a, ce que je crois, c'est comme pour l'enseignement, je crois qu'il y a une vertu émancipatrice du savoir. Donc ce savoir sur le présent libère des forces d'émancipation. Ça, c'est une jambe qui est évidente. Mais moi, je pense qu'on ne marche pas sur une seule jambe. Et l'autre jambe, qui rejoint exactement ce que tu dis, c'est comment on est à la rencontre de la société, comment on accompagne la société. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner la société? Ça veut dire tout bêtement ne pas être au-dessus en disant « voilà, je sais ce qui est bon ou pas bon pour la société ». L'histoire des Gilets jaunes est de ce point de vue, mais un cas d'école. Il suffisait d'aller sur le terrain pour comprendre ce qu'étaient les Gilets jaunes. Et nous, on n'a pas fait autre chose. Alors regardez, on a bien vu qu'au début, l'extrême droite joue avec. On a bien vu un cortège d'extrême droite se mettre à charger un cortège où il y avait du NPA. On a vu, on a repéré, on connaît bien les fachos, on a repéré qui était là et tout aux Champs-Élysées. Mais on a été sur le terrain. Et sur le terrain, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. On a vu une diversité, on a vu ce monde de travailleurs pauvres, ces femmes célibataires, et puis on a vu cette dynamique politique, où bien sûr que des gens arrivaient avec des préjugés xénophobes ou racistes, et les autres disent « ok, bon, d'accord, on n'est pas d'accord, mais discutons d'abord sur quoi on est d'accord ». Et c'est dans cette dynamique politique, c'est le mouvement de l'émancipation, de l'égalité. Hein, et le mouvement de l'égalité, bah, pour moi, il est sans frontières. Et au bout d'un moment, il met à mettre en cause, à tel point, on l'oublie, hein, mais que le tube des Gilets jaunes sur la vidéo, c'est la vidéo d'un chauffeur routier, je pense qu'il est ou d'origine sénégalaise ou d'origine malienne, je ne sais plus, hein, qui arrive, qui se fait bloquer, qui ne peut pas travailler. Et puis du coup, il fait « il y en a marre, il y en a marre ». Et sur un rythme de Kinshasa, on a l'impression d'être en boîte en Afrique occidentale. Donc, ça montre comment, voilà, ça, c'est ça le moteur de l'égalité, c'est ça qui permet d'aller à la rencontre de l'autre. Et déjà, les ronds-points, c'était ça. Des gens d'origine, de milieux, de situations différentes se mettaient à aller. Et donc, on rend compte de ça. Et là, comment on accompagne? Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est comment on permet, par notre travail de journaliste, de répercuter, de donner de l'ampleur aux alertes de la société elle-même. Et vraiment, le cas d'école, c'est l'histoire des violences policières. Il ne faut jamais oublier la séquence novembre, décembre, janvier 2018-2019. Les médias en boucle, et même les médias traditionnels, ne voient que les violences du samedi et violences des Gilets jaunes, bien sûr, et en boucle. Et nous, on voit autre chose sur le terrain. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'un collègue qui a travaillé à Mediapart à ses débuts, sur les réseaux sociaux, revenu, il vivait au Québec, tout d'un coup, David Dufresne, donc, sur Twitter, tout bêtement, se met à faire « Allô, Place Beauvau », il se met à faire… il se met tout ça sur Twitter, des petits messages. Et alors, il le fait parce que c'est un pionnier du numérique, hein, vraiment, il a grandi là-dedans, mais il le fait comme ça, comme réaction, hein, voilà, il sait les codes, il sait comment transmettre une alerte, et il le fait en ayant en souvenir, c'est assez drôle, qu'il avait déjà fait une petite alerte quelques mois avant, juste après le 1er mai. C'est lui qui répère cette vidéo qu'avait faite à Abou Hafs et qui est en fait la vidéo où on voit Benalla frapper des manifestants. On croit que c'est des flics, on croit que c'est des policiers. Bon, et donc du coup, on contacte David. On dit, mais si on faisait tout un truc, on appelle ça Allo Place Beauvau, on fait une banque de données. On fait une banque de données qui continue, hein, sur le nombre de cas signalés en faisant notre travail. Il ne se suffit pas de dire « il y a eu une violence policière, quel est son contexte, que dit l'image avant, que dit l'image après ». C'est là où notre compétence intervient. Hein ? On la vérifie, on ne fait pas que simplement de la rumeur, hein, les victimes ont forcément raison. Non, on fait notre travail et tout. Bon, et comme vous savez, la suite a permis cette prise de conscience sur une répression. Vraiment, ce pouvoir a eu une grand-peur sociale, hein, digne, bon, ils n'ont pas tiré à balles réelles, mais c'est des LBD, mais digne d'autres grand-peurs sociales par rapport au mouvement. Je prends ce premier exemple. L'autre exemple, je trouve, c'est aussi cette nouvelle révolution féministe. Et qui bouscule tout le monde. Hein. Là, il n'y a pas d'étiquette politique. C'est une nouvelle révolution féministe qui nous oblige, nous les hommes, hein, à quand même être confrontés à une grande part d'inconscient de notre domination, de notre verticalité, de notre, bon, voilà, l'inconscient de la longue durée, etc. Bon, elle surgit, là, voilà. Elle surgit, et comme elles le disent, c'est pas une libération de la parole. Il s'agissait de libérer l'écoute. Ou qu'on travaille sur une entreprise, sur une situation de pouvoir, sur un milieu, le cinéma, sur etc. On s'aperçoit que les choses avaient été dites, mais n'avaient pas été entendues. Et donc là, pareil. C'est-à-dire, quel est notre rôle ? Ben, c'est d'accompagner ça, pas de manière dans le commentaire, pas dans la manière de l'opinion. C'est, on fait notre travail. Quand Adèle Haenel, par hasard, vu que nous étions au moment du procès Baupin, puisque nous avions révélé ça sur ce parlementaire, et qu'il nous faisait un procès et qu'il a évidemment perdu face aux 10 femmes qui étaient là et qui témoignaient, où nous avions dit, de toute façon, on ne se contentera pas d'un seul témoignage, il ne suffit pas une parole contre une autre, etc. Et Adèle Haenel dit à une journaliste, ah ben moi, voilà, et elle raconte son histoire, nous lui disons, on ne vous croit pas sur parole, on va faire 7 mois d'enquête et on va essayer, avec les 30 témoignages, de faire le MeToo du cinéma, c'est-à-dire faire prendre conscience de quelque chose. Bon, et moi, je crois que c'est ça, c'est cette dialectique-là, cette relation-là, qui fait, pour moi, la place d'une presse démocratique. Hein. Donner cet écho en apportant notre compétence et en faisant aussi, et là, y compris ce que vous faites, là, nous avons une autre arme, c'est qu'aujourd'hui, un média, même écrit, est aussi un média multimédia. C'est-à-dire qu'on n'est pas en surplomb. Les entre guillemets, victimes, par exemple, ou les acteurs, quand nous sortons l'enquête sur Adèle Haenel, le lendemain, Adèle Haenel, c'est elle qui vient parler. Hein. Donc, il y a une nouvelle relation. Moi, j'ai dit au tout début de cette remise en cause, car c'en est une, hein, par rapport à notre propre, mon itinéraire et ma propre histoire professionnelle, j'ai dit, c'est comme si on était descendu de l'estrade. Comme si on était descendu. Et vous vous souvenez de la phrase de Marx, hein, qui éduquera les éducateurs, hein ? C'est-à-dire que, voilà, bien sûr qu'il y a des savoirs, il y a des compétences, mais néanmoins, voilà. Et pour moi, journaliste, c'est pour ça que c'est une sorte de bain de jouvence, c'est que nous retrouvons tout d'un coup l'idéal originel de la radicalité démocratique, je dis bien, c'est-à-dire celle de l'égalité, hein, sans distinction d'origine, de diplôme, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, j'ai le droit de m'en mêler, eh bien nous retrouvons cet idéal démocratique à l'origine de à quoi peut servir une presse démocratique. Alors ça n'empêchera pas qu'il y aura en face une presse réactionnaire et qu'on la laissera vivre aussi. Mais il faut parier sur le mouvement pour la... Voilà, parce que...
Mais la nécessité de cette presse démocratique est d'autant plus importante qu'on est dans des moments de disjonction entre le peuple et ses représentants.
Bien sûr.
Et ses représentants d'une manière générale. Je ne parle pas simplement de la représentation
politique.
Bien sûr. Les deux sens, je suis entièrement d'accord. Pardonne-moi de t'interrompre, ça, je crois ça profondément. Souvent, contrairement à l'image qu'on peut avoir de nous, peut-être, moi, je lis totalement la crise de la représentation élective, politique, à la crise de la représentation médiatique.
Médiatique.
Il y a les deux sens. Et donc, nous sommes, nous, journalistes, autant mis en cause que ce monde-là à cause de ça. Pardon.
Non, mais je voulais revenir justement là-dessus, sur la question des violences que tu as évoquées il y a un instant. Parce que cette disjonction que j'évoque, elle est apparue très clairement à ce moment-là. D'un côté, entre un pouvoir qui condamnait la violence quand il ne l'instrumentalisait pas, et de l'autre côté, le camp révolutionnaire, mais le camp révolutionnaire institutionnalisé, qui avait comme argument de dire que toute violence nuisait à l'élargissement du mouvement. Ce qui est faux, ce qui est même absurde, et tout en atteste, toutes les enquêtes d'opinion qui ont eu lieu, par exemple, après les actes 2 et actes 3 des Gilets jaunes, qui ont été quand même des actes d'une grande violence, par exemple, sur les Champs-Élysées, ont donné à voir que l'opinion avait augmenter son soutien au mouvement des Gilets jaunes à cette occasion-là. Et donc, il y a une acceptation de plus en plus grande, sinon de la violence, mais du rôle politique de la violence qui existe dans la société. Donc ça, les représentants sont, à mon sens, aujourd'hui incapables de le voir. Et la question de la prise en compte des violences, policières notamment, nécessite que la presse s'en saisisse. Mais ça m'amène à une autre réflexion, et je voudrais t'interroger et t'interpeller là-dessus. On connaît la réflexion de Gramsci sur la dualité entre la domination par la force et la domination par le consentement. Et la presse, dans la domination par le consentement, joue un très grand rôle là-dedans. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une exacerbation de la domination par la force. Et est-ce que cette exacerbation de la domination par la force vient du fait que la presse est toute puissante et finalement que le pouvoir peut se permettre d'aller encore plus loin dans sa violence institutionnelle et structurelle? Ou alors, est-ce que c'est justement parce qu'il y a une presse démocratique qui est de plus en plus importante et qui remet en cause en grande partie des fondements de l'État et des cadres institutionnalisés, qu'il y a cette réaction finalement presque épidermique, une forme de sauve qui peut, qui se met en place dans les cadres institutionnels.
Ouais, la grand-peur dont tu...
Oui, moi je pense justement qu'actuellement, toute cette violence montre qu'ils ont peur. Mmh. Ils savent que leur monde est fini. Ils savent.
C'était l'intervention du chef de l'État l'autre jour.
Bien sûr. Je veux dire, mais quand on voit la catastrophe climatique, quand on voit la bulle financière spéculative, quand on voit, comme je dis en rigolant, qu'un virus révolutionnaire déstabilise tout ça, on voit bien qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et eux, ils sont simplement dans un court terme. Nous avons des élites, entre guillemets, au sens une petite bulle, qui, comme l'a dit Bruno Latour, sont offshore. Elles sont dans leur monde, elles ne sont plus dans la société et elles veulent rester dans cette bulle. Entre nous, cela donne, au-delà du système économique, de l'appropriation des principaux médias privés par des oligarques et des industriels dont l'information n'est pas le métier, cela donne aussi des médias qui perdent le nord. Comme je dis, dans le journalisme, il y a aussi des gens qui passent du côté obscur de la force. Il y a du journalisme mercenaire, il y a du journalisme qui est hors du réel. Moi, je suis même sidéré de ça. J'ai commencé dans le métier, j'étais journaliste à Rouge Quotidien, dans les années 70. Je travaillais sur les questions d'éducation. Il y avait une association, Presse Information Jeunesse, que j'ai un temps présidé, qui rassemblait tous les journalistes spécialisés sur l'éducation. Il y avait les journalistes du Figaro, il y avait les journalistes de l'AFP, du Service Public, du Monde, de l'Humanité, tout genre. Il y avait ce pluralisme, pluralisme politique de la société. Mais professionnellement, la profession se retrouvait sur des principes communs. Le rapport à la vérité des faits, la solidarité professionnelle sur les chartes élémentaires. Aujourd'hui, il suffit de voir les attaques que subit Mediapart, ou même dans la personnalisation, c'est un prétexte, Mediapart n'a pas de moustache, que je peux subir d'une partie de ceux qui dirigent des autres journaux, pour voir combien il y a une régression totale de ça. Pas à la base, hein. Les travailleurs de l'information sont de ce côté-là, mais du côté des hiérarchies, je suis sidéré par, comment dire, une violence de classe, pour le dire très clairement, comme si des masques tombaient. Et ça s'est vu sur les gilets jaunes, ça se voit sur le féminisme, ça se voit sur l'idéologie. Et là, c'est la bataille que nous avons amenée par rapport au numérique. Quel est notre ennemi ? Notre ennemi, c'est tout d'un coup que le règne des opinions l'emporte sur le rapport rationnel à la vérité. Et c'est le cheval de Troie. C'est comme ça, pour reprendre Gramsci, qu'ils sont dans une hégémonie néoconservatrice. Voilà, il n'y a plus de rapport à la réalité, et simplement, l'opinion l'emporte, y compris par ce phénomène de course à l'audience, les talk-shows, pas le nôtre, nous on parle au fond, mais les talk-shows, des chaînes d'infos en continu, où, pour faire de l'audience, il faut faire du clash, et plus la vulgarité d'âme, plus la virulence d'expression arrive, mieux ce sera. Et on tire vers le bas. On tire vers le bas. Et ça ne vient pas du peuple numérique, ça vient de ces médias-là. On tire vers le bas. Et du coup, ça gangrène, y compris la presse dite de qualité traditionnelle. Et donc, nous, notre travail, c'est de dire, donc, pour que le débat d'opinion est constituant, soit constructif, il faut un rapport au réel. Rapport au réel. Nous, nous sommes du côté de la raison. Hein. Et là, je voudrais prendre une image. Le livre est illustré, que j'ai reprise, mais qui, moi, m'a frappé et que j'ai lié, évidemment, au souvenir des Gilets jaunes. Donc, à l'actualité, pourrait-on dire, ça m'a frappé. Et c'est vraiment les Gilets jaunes qui m'ont fait découvrir ça comme ouverture du livre. À Bordeaux, l'automne dernier, donc la répression policière, et Bordeaux, c'est là où le préfet de police, l'Allemand, a d'abord fait ses premières armes. Préfet de police, hein, l'origine ne protège de rien. Il était chevènementiste dans sa jeunesse. Il était au CRS. Mais oui, je rappelle ça parce que la Révolution nous le rappelle aussi. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, c'est comment tu te comportes à chaque étape. Hein.
Ouais, ouais.
Hein, voilà, Joseph Fouché était plus révolutionnaire que Bailly, sur le papier, mais Joseph Fouché va accompagner l'assassin des libertés et être le ministre de la police, du directoire, du consulat et de l'Empire. Donc, c'est pour dire que c'est le moment nous requiert. Tous les moments de transition nous mettent à l'épreuve de ce point de vue. Alors, je reviens, parce que c'est là où l'intelligence collective du peuple te fait toi-même bouger. Et il y a cette photo qui m'a envoyé. Des activistes gilets jaunes font tomber sur la chambre de commerce de Bordeaux une grande bâche commerciale qui montrait un téléphone mobile de marque asiatique et ils mettent à la place une phrase que je ne connaissais pas. « Ce qui crève les yeux du peuple, sont ceux qui disent qu'il est aveugle. John Milton, 1642. Et du coup, je découvre que le John Milton en question, qui est un grand poète de langue anglaise, est en fait l'activiste de la révolution parlementaire britannique, le premier auteur du premier libelle pour défendre une liberté de la presse intégrale, la liberté de publier sans autorisation ni censure, Areopagitica dans son titre latin, qui sera traduit par Mirabeau avant la Révolution française et qui sera le texte fondateur de ce dont nous parlons, c'est-à-dire créer un espace public démocratique. Et en fait, c'était un activiste de cette révolution où ils vont quand même couper la tête d'un roi, où ils vont créer une éphémère république, il y aura une restauration, mais néanmoins, ça va fonder un peu le parlementarisme. Comment dire, c'est une révolution intéressante parce que c'est celle que Richelieu empêche en France et qui est au cœur, mine de rien, de notre verticalité. Parce que nous, on dit 6e République, parce qu'il y a la 5e République. Mais la monarchie absolue, le césarisme bonapartiste et le présidentialisme républicain, c'est une continuité. Et c'est une continuité qui s'enracine dans ce 17e siècle où, quand les parlements s'ébranlent, la petite noblesse appauvrie fait une alliance avec la bourgeoisie et que ça commence à bouger. Quand vous vous promenez en région, on vous dit « Ah ben, ce château, il a été rasé par Richelieu. » Eh ben, c'est ça. Ils ont étêté et ils ont créé cette verticalité à ce moment-là. Qui c'est qui a, principe, qui a été sauvé par Napoléon Ier et qui se retrouve, évidemment, avec son neveu qui assassine la Deuxième République et qui se retrouve dans le fait que, jusqu'en 58, les Républicains ne voulaient pas l'élection au suffrage universel du président à cause de ça. Hein, à cause de ça, et la Ve République reprend ça. Je fais ce détour pour dire ça. Et donc, je pars de cette formule de Milton et je découvre, c'est formidable, 25 éborgnés. Quel est le symbole de l'espace public constituant dont nous parlons pendant la Révolution française ? Symbole qu'on retrouve aussi dans la tradition maçonnique, mais la maçonnerie de l'époque accompagne dans cet esprit des Lumières. C'est un œil. C'est un œil. On le retrouve sur les rambardes du vieux palais de justice à Paris aujourd'hui. Et on le retrouve à l'entête du journal officiel de la République, y compris, j'ai trouvé le numéro qui annonce l'arrestation de Robespierre, il y a encore cet œil dans un triangle. Le triangle étant un symbole d'équilibre, c'est une formule géométrique qu'on ne peut pas...
De l'homme et du citoyen.
Bien sûr, c'est la surveillance. Il faut qu'un processus constituant se fasse sous le contrôle et la surveillance du peuple. Alors, c'est la surveillance au sens du contrôle, de la discussion, de l'argumentation, de procédures qui permettent ça. Ça ne veut pas dire n'importe quoi. C'est très intéressant. Il y a trop peu connu. Le journaliste le plus brillant de la Révolution française va mourir très vite. Il meurt de maladie en 1790. Tous diront, c'était le meilleur d'entre nous. Il avait créé un journal, il s'appelait Les Révolutions de Paris. Loustalot. Élisée Loustalot. Et nous, on est très fiers de dire la Déclaration des droits de l'homme, qui vient après la publicité, la sauvegarde du peuple, fin août 1789, a un article qui proclame la liberté de la presse. Or, cet article, et ça m'a toujours troublé, proclame cette liberté fondamentale, mais c'est la seule liberté fondamentale qui est accompagnée d'un sauf. D'un sauf restrictif. Alors qu'il est dit avant, à l'article 4, je crois, que les libertés, elles sont en conflit. Hein, la liberté, les droits sociaux, la liberté de propriété, la liberté, etc. Et c'est à la justice, etc. C'est un équilibre. Et là, il y a un sauf pour cette liberté-là, et qui marque, en fait, la peur de cette liberté. Et Loustalot, immédiatement, fait un éditorial. Immédiatement, pour dire attention. Attention, c'est là qu'est le ver dans le fruit. Hein. On va commencer, parce que c'est quoi cette liberté ? C'est la liberté par laquelle le n'importe qui démocratique surgit, par en bas. Et on l'a retrouvé dans la haine sociale vis-à-vis des gilets jaunes, vis-à-vis de leur expression. Et donc, voilà, moi, je pense que tu mets le doigt dessus, y compris dans une question nouvelle et qui dérange beaucoup toute la culture politique qui s'est y compris emparée de la gauche. Dans la professionnalisation de la politique. Comme vous savez, un des débats importants de la Révolution, c'est mandant et représentant. C'est important, ça. Voilà. C'est-à-dire, on est arrivé à l'idée, il y a les représentants. C'est-à-dire, je suis élu et j'ai... Et en fait, la Révolution française dit, attention, il y a les mandants, c'est-à-dire, vous êtes sous notre contrôle, vous ne nous échappez pas. C'est-à-dire, il y a, dans la culture démocratique de la Révolution française, bien sûr qu'il faut des élus, bien sûr qu'il faut des gens qui agissent en mon nom, mais ils doivent rester sous mon contrôle. Et mon contrôle, c'est cet œil que fait vivre cet espace public.
Ils doivent rester sous mon contrôle, mais sur une base qui elle-même est une espèce de processus constituant en taille réduite. Parce que pendant la Révolution française, il y avait des mandats, mais ce qui était important, c'était l'élaboration du mandat. Le moment de l'élaboration du mandat, ce n'était pas juste des gens qui allaient mettre une contribution sur un site, comme pendant le grand débat. Les gens se réunissaient et ils discutaient des heures, et ils y revenaient, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un esprit commun, un esprit public qui sortent de là et qui ensuite étaient mis dans
Tu as entièrement raison. Un des trucs qui m'a totalement choqué, c'est vraiment des réalités auxquelles on doit faire attention. Dans l'évolution, toutes sortes de mouvements surgissent dans le bouillonnement actuel. Mais surgissent aussi des démagogues, surgissent aussi des gens qui veulent s'emparer de ça et qui utilisent la technologie numérique pour manipuler. Et je prends un exemple, c'est ce qui s'est passé avec le mouvement 5 étoiles. Quand j'ai vu que sur la question de l'alliance avec l'extrême droite, le mouvement 5 étoiles, ce n'était pas se réunir pour débattre d'une question grave quand même, hein, par rapport, est-ce que parce qu'on est d'accord là-dessus dans nos frontières, on va accepter, et c'est la même chose pour les écologistes autrichiens, s'allier avec des gens sur lesquels on n'est pas du tout d'accord par rapport à leur relation à l'autre, à l'étranger. Et comment ils ont fait? On clique. J'ai reçu chez moi, je clique. Je n'ai pas de réunion où j'écoute des arguments, où j'écoute des orateurs, où je discute, où ça répond, je ne prends pas le temps de la délibération. Ce qui nous a choqués, y compris dans le grand débat de Macron, c'est pas seulement ces contributions comme ça, d'ailleurs, qui n'ont pas été publiées, hein. Les cahiers de doléances, on les a pas vus, hein. Tout ça, soit dit, c'est à la BNF, on les trouvera je ne sais quand, hein. Ils ne se sont pas occupés de les publier. Or, il y avait plein de choses dedans. Bon, mais ce qui était choquant, c'est de voir tout d'un coup, le type, il arrive et il parle 7 heures. Le pire a été l'exemple, qui montre aussi un mépris... C'était avec les Outre-mer. C'est là où il nie le chlordécone. Vous vous souvenez? Et ça, il est avec les élus des Outre-mer. Et il dit, moi, je suis le sachant. Il a des gens, il a l'expertise populaire, des représentants de territoire qui connaissent cette réalité, hein, de comment la terre est empoisonnée avec la banane. Il leur coupe la parole. Il dit, est-ce que vous avez l'expertise scientifique? Genre, moi, je l'ai. Et en fait, il se fait le porte-parole du lobby de la banane, hein, qui a dû lui faire une note, etc. Et là, on est, en effet, c'est là où on est au cœur de notre enjeu aujourd'hui. Hein. C'est cette élaboration collective et comment on laisse... Parce que les technologies, je veux juste dire, pour ne pas donner une illusion, elles ne sont pas bonnes en soi. Hein. Elles sont émancipatrices ou elles peuvent être totalitaires. Elles peuvent aider, nous surveiller, nous espionner, nous intoxiquer, etc. Donc, c'est les usages sociaux. Et d'où ce dont nous parlons, c'est quelle politique on va mettre dedans.
Oui, mais moi, j'étais quand même à vous écouter là, sur la question qui, au départ, a été la question de la représentation, finalement, puis après, celle de la domination par le consentement ou pas. Je me posais la question qui est en fait quelque chose qui est lié à ce que tu as dit au départ sur la Révolution française et le moment où une sorte de journalisme est venu d'en bas.
Oui, bien sûr.
En fait, c'est
sûr.
Le journalisme par les gens. Et ce que Mediapart a tenté et continue de produire, c'est-à-dire une espèce d'ébullition d'écriture et de lecture collective. Et donc, je me demandais si, précisément, dans un processus constituant, il faut rendre possible, rendre visible cet effort-là, effort collectif, mais sans jamais... y mettre un doigt, voilà. Est-ce qu'on peut effectivement rendre possible, par la technologie, par voilà, cet espace collectif d'expression, d'échange, de relation, et sans l'orienter d'une quelconque manière, ou pas? Et parce que c'est la question de l'intervention.
Par rapport à ton introduction, je suis obligé du coup d'intervenir sur les conditions qui permettent ce processus constituant.
Voilà.
Donc tu avais dit, on ne va pas s'occuper de comment on prend le pouvoir ou comment.
D'accord. Mais
je suis obligé. Il y a forcément des conditions.
Oui.
Et pour moi, supposons qu'on ait un scénario vertueux qui fait qu'il y a une dynamique et où cette dynamique politique est élue. Je préfère dire une dynamique politique plutôt que quelqu'un. Je préfère que derrière un quelqu'un ou une quelqu'une, il y ait du collectif et qu'ils disent, ben voilà, moi, je vais accompagner un processus constituant et je m'engage à ce qu'il aboutisse dans les 2 ans et après, je rends et je ne vais pas instrumentaliser à mon profit ce processus constituant. Il faut bien 2 ans pour mettre ça en place. Et il y a des conditions requises. Alors, il y a des conditions requises. Pour moi, il y en a deux par rapport à ce que tu dis. Il y a vraiment ce qu'on appelle la neutralité du numérique. Hein. C'est-à-dire il faut que notre pays, notre espace public, mène une bataille qui n'est pas seulement que les GAFA payent des impôts, mais que l'accès ne soit pas contrôlé, ne soit pas... La neutralité numérique, ça veut dire que j'ai le droit de dire. Alors, on peut dire comment dire. Et ça, je le rappelle, parce que dans les cahiers de doléances, ça y est, j'ai le droit de dire. Bon, ça veut dire que j'ai le droit de dire des bêtises. Alors, si je dis des bêtises qui peuvent violer, blesser, abîmer, je dois en rendre compte. Et donc là, nous sommes devant une question très importante que la Révolution française avait tout de suite posée, qui est la question de l'anonymat. C'est-à-dire qu'en clair, elle dit il faut qu'on ait le droit de publier sans censure ni autorisation, librement. Deuxièmement, il faut que si l'auteur de l'écrit reste anonyme, il faut qu'au moins l'imprimeur ne soit pas anonyme, qu'il puisse rendre compte. Et troisièmement, qu'il y ait un jury spécialisé, c'est-à-dire les délits de presse ne sont pas des délits comme les autres, ne sont pas des délits de droit commun. On ne va pas aller en prison pour une opinion. Hein. Elle n'a pas allé en prison pour une opinion. Mais donc, c'est ce que va donner, un siècle après, la loi de 1881, la loi républicaine sur la presse, qui protège pas seulement la presse, hein, notre liberté d'information. Alors, sur l'anonymat, c'est intéressant. Parce que, bien sûr, qu'il peut y avoir de l'anonymat. Je suis un policier et je veux dénoncer une réalité. Je ne vais pas mettre mon nom en pâture et mettre en péril. Et là, nous sommes au cœur sur les plateformes. Moi, directeur d'un journal numérique, je réponds de tout ce qui s'y publie. Bon, donc je ne suis pas... Voilà, je réponds. Les plateformes Facebook et autres, on devrait les obliger à rendre compte. Devrait dire, bah écoutez, s'il y a un contenu qui, etc., vous devez le dépublier ou vous l'assumez. Hein, alors, ce qu'ils ne veulent pas faire, c'est qu'il y a des questions, y compris de souveraineté démocratique, de qu'est-ce que c'est qu'un espace public numérique, au-delà des questions économiques.
Et qui renvoie à la question de la responsabilité.
Bien sûr, comment... Et j'ai participé, c'est là où c'est terrible, comment notre pays, son système présidentiel qui piétine tous les pouvoirs, et notamment l'élaboration parlementaire collective, ouais. J'ai participé, j'étais le seul journaliste à une commission parlementaire inédite, sous la législature du quinquennat Hollande. Elle a été créée par un parlementaire qui était curieux des questions numériques, Christian Paul, socialiste, et son inédit, c'était 13 parlementaires de toute tendance, 13 personnes de la société civile, essentiellement des juristes. La coprésidente était une ancienne bâtonnière de l'Ordre des avocats de Paris. Il y avait toutes les tendances, et nous... Dans le groupe où on était, il y avait un activiste, un intellectuel, Philippe Grin, de la Quadrature du Net, moi comme journaliste, et pour l'essentiel des juristes, très attachés plutôt à comment la vie privée est malmenée sur le numérique, comment, etc. On a passé un an et demi de discussion, dans la pire année, qui était l'année 2015, l'année des attentats, l'année du durcissement, etc. Nous sommes arrivés, il s'appelle un nouvel âge démocratique, à un rapport unanime. Rendu à l'automne 2016, qui dort dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Ce rapport, il est gros comme ça. Il raconte qu'est-ce que serait qu'un espace public numérique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la neutralité du net. C'est un rapport de référence, de référence. Parmi les parlementaires qui l'ont adopté, il y a l'actuel ministre de la Culture et de la Communication, Franck Riester. C'est là où on en vient, par le présidentialisme, à avoir une démocratie amnésique.
Ou écrasée.
Écrasée et amnésique. Mmh. Parce que quand même, quand ils font la loi sur le secret des affaires, ils l'ont faite quand même. Hein. Moi, je vois, je suis auditionné. Mais je dis, mais vous avez la réponse dans vos tiroirs à l'Assemblée nationale que la presse, elle ne peut pas... Vous connaissez l'histoire, c'est qu'ils font cette loi sur le secret des affaires, ils disent, non, non, ça ne concernera pas le journalisme. Ça ne concernera pas le journalisme. On dit, ben, vous n'avez qu'à l'écrire. Et ils ne l'ont pas écrit, évidemment. Parce que, évidemment, c'est... Voilà. Donc, je dis ça parce que, sur cette question, c'est-à-dire, quels seraient les prérequis ? La réflexion existe. Et c'est une réflexion qui a été menée collectivement, etc. Deuxième condition... immédiatement, comme une loi fondamentale, c'est nous n'avons pas l'équivalent de ce qui existe aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les autres grandes, quels que soient leurs défauts, mais qui ont une histoire d'invention démocratique, ce qu'on appelle aux États-Unis le Freedom of Information Act, c'est-à-dire le droit d'accès. C'est un droit d'accès aux documents publics, il est médié par la commission administrative d'accès aux documents administratifs, la CADA. Il est médié, et à tel point qu'elle refuse, récemment encore, sur des rapports de l'IGPN, sur la police, ça a été refusé. Nous, on va parfois sur les comptes de campagne, on a dû aller jusqu'au Conseil d'État pour obtenir, parce qu'elle nous le refusait, et montrer qu'en fait, la commission des comptes de campagne n'avait pas les moyens de vérifier et de raconter. Donc, il faut dire, dans une démocratie, la publicité et la sauvegarde du peuple, tout ce qui est d'intérêt public est public. Avec le numérique, aujourd'hui, on peut le permettre. On peut le permettre. C'est-à-dire que le public doit avoir accès à tout ce qui est public. On est au cœur d'un enjeu démocratique. Au moment où se passe notre entretien, nous avons hier rendu public les enregistrements qu'a fait Yanis Varoufakis à l'Eurogroupe en 2015.
Ce qui est quand même...
Mais ce qui est une histoire... Je n'aime pas le mot transparence.
Non, petite parenthèse, je sais.
Parce que transparence, on nous le retourne. Hein, vous voulez espionner tout. Moi, il y a la vie privée. Chacun a une part d'opacité. Chacun a droit à une part d'opacité. C'est un mot piège.
C'est le mot officiel.
C'est le mot officiel qui est un mot piège.
Oui,
pour dire, vous êtes les dictateurs de la transparence. Ouais, ouais. Ça, je dis, moi, le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public, et je rends compte, y compris devant la justice, si j'ai mordu le trait, est-ce que c'était pas d'intérêt public ou pas, on a le droit de me demander des comptes. Mais je reviens, quand Varoufakis fait ça, contrairement à l'accusation que fait Pierre Moscovici, quand il dit c'est des méthodes de voyous, il dit qu'il avait déjà dans l'idée d'enregistrer. C'est pas ça. Il sort de 10 heures de réunion de l'Eurogroupe, où se décide notre sort. Les ministres de l'économie de la zone euro décident du sort de nos économies, avec la BCE, avec le FMI, avec la Troïka, ils sont là.
Dans un Eurogroupe informel.
Il sort de 10 heures. Il se dit, mais comment je vais... Comment je vais en rendre compte, hein, moi, je parle bien anglais, les autres parlent mal anglais, machin, etc. Comment je vais en rendre compte à mon premier ministre? Donc, il appelle une de ses collaboratrices, il dit, je voudrais les notes, quoi, le draft, le document. Et il dit, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Ça a été une bataille. C'était une bataille que les assemblées soient publiques. Dans le livre, je rappelle qu'une des batailles de Robespierre, citant la phrase de Bailly, c'est la publicité sur, y compris, les actes administratifs. Administratifs, pas seulement des assemblées. Ce qui se retrouvera dans la Constitution de l'an 1. La Constitution de l'an 1 le dit, y compris la publicité des actes administratifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un corps de professionnels qui fait les choses en secret.
Hein,
donc le rapport de l'inspection des finances. Hein. Ouais. Et donc l'Eurogroupe, l'événement Varoufakis, et je pense qu'on n'en prend pas assez la mesure, c'est pour ça qu'il s'est fait tant d'ennemis, c'est que tout d'un coup on a un lanceur d'alerte au cœur du système et qui nous fait découvrir que la boîte noire de nos économies aujourd'hui est secrète. Est secrète. Et qui, du coup, prend le risque de dire, je vais vous le raconter. Hein. Et ça donne à la fois son livre, le film de Costa Gavras, et ce qu'on publie...
Et cet enregistrement.
Et voilà. Et donc, on est au cœur de ça. Comment est-ce possible? Quelle régression démocratique? Il devrait y avoir, évidemment, un compte-rendu. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de compte-rendu permet toutes les manips. Et là, on est au cœur. C'est-à-dire d'être... Si on n'a pas le droit de savoir, on est aveugle. On est prisonnier des propagandes, des mensonges. Donc, ce qu'il raconte, c'est qu'une partie des discussions, c'est quel communiqué on va faire à la fin. Et chacun fait sa com' pour aller dans son sens politique.
Et tu dis la boîte noire de l'économie est cachée, mais la boîte noire, une question qui nous occupe en ce moment, qui est celle de la santé publique, par exemple, l'est tout autant. Tu évoquais le fait que le président de la République, Macron, se cache derrière un scientisme qui lui va bien dans certaines circonstances. On se rappelle que lors de sa conférence de presse du 12 mars, celle durant laquelle il annonçait la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires dans notre pays, il a en même temps justifié le maintien des élections municipales en disant « j'ai rencontré des experts, les scientifiques, on dit, mais qui a la matière? Qui sait ce qui s'est dit réellement et qui fait et qui peut produire le fait que, dans un même temps, on ferme les établissements scolaires et on envoie 25 millions de personnes, les unes sur les autres, dans les urnes? Il y a une incohérence totale et lui se cache derrière des données que personne n'a.
Il est dans ce discours, il a même cette phrase dans son intervention. Il dit, il faut faire confiance. Il ne dit pas les sachants, mais à ceux qui savent. Mais je me demande s'il ne dit pas les sachants.
Il dit les sachants.
Cette idée, lui, il est de cet ancien monde à tout point de vue,
ouais,
qui est qu'il y a des propriétaires du savoir. Nous, on a fait, dans la foulée, on a demandé à tous les spécialistes, épidémiologistes, etc., la question des courbes. Bon, on voit bien que la courbe, on sait tous que la question d'éviter les déplacements, etc., c'est d'éviter un engorgement, ce qu'ont fait les Italiens, un engorgement du système de santé par le côté exponentiel. Mais que veut dire la courbe? Est-ce que la courbe va retomber? Est-ce que, etc. Et on s'aperçoit, évidemment, en faisant ce travail, en confrontant les avis, que le doute fait partie du savoir. J'ai mis en exergue cette phrase, je voudrais la citer exactement, de Condorcet. « Les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent et non ceux qui se vantent de l'avoir trouvée. » Et il était mathématicien aussi, c'est pas un hasard. Bon, mais voilà. Et donc, on s'aperçoit que même entre scientifiques, il y a... Voilà ce qu'on sait. voilà ce qu'il faut faire par prévention, parce que c'est nécessaire, mais voilà ce qu'on ne sait pas. Ça peut retomber très vite, ou bien non, bien, etc. Et ça, ils le disent, et ils le disent très bien. Et tu as entièrement raison. Un pays démocratique serait un pays où ce n'est pas le président... Alors, à la fin, il a dit du « nous », exceptionnellement, hein, tout d'un coup. Il a dit « nous », tout d'un coup. Mais autrement, il dit plein de fois « je ». C'est un truc, mais on est... Enfin, c'est une préhistoire démocratique d'avoir sur un événement comme celui-là un président qui dit « je vous demande, je ceci, je cela ». On est des grands garçons, on est des grandes filles, on est... etc. Bon, la vérité, c'est qu'on devrait avoir une conférence de presse où voilà ce que dit le directeur de la santé, voilà ce que dit le comité d'éthique, voilà ce que dit, et moi, je fais la conclusion. Hein, oui. C'est-à-dire, voilà, hein, et sans compter quand même, ce pouvoir a fait trois choses qui montrent où il est, je trouve, qui sont sidérantes. Premièrement, face à la pandémie, il s'est dit, mon problème, c'est l'économie. Mon problème, c'est les marchés. C'est mon ça. Problème, c'est les banques. Et il ne s'est pas occupé du peuple. Spontanément, ce n'est pas ça qu'il a voulu voir. Deuxièmement, il s'est si peu occupé du peuple qu'il n'y a posé aucun problème face à un bug qui dessert notre cause du droit de savoir, qui est l'histoire des vidéos griveaux, de dire à la ministre de la Santé, tu vas sauver notre camp à Paris. Alors qu'elle connaît le corps médical, quelqu'un, etc., que normalement, une personne responsable dit, attends, j'ai une pandémie qui s'annonce, je peux pas, c'est moi, voilà, je saute pas du train à ce moment-là.
De la même manière qu'on peut pas changer les équipes municipales pendant qu'il y a une crise au niveau local, on peut pas changer le ministre de la Santé au moment où il y a une crise nationale.
Et troisièmement, conseil des ministres sur le coronavirus, et en fait, c'est la combine pour décréter le 49-3 sur les retraites. Et la question que tu poses, Fabien Escalona de Mediapart fait un entretien sur Mediapart avec un chercheur, et c'était le point de vue de Fabien, qui dit, il aurait fallu porter les municipales. Mais voilà, comment dire, notre conversation, moi, me rend optimiste, parce que Dieu sait si l'adversité est très forte et si les tendances lourdes, comment dire, la catastrophe, elle est là, hein, elle est pas, c'est la formule de Gramsci, il dit, la catastrophe n'est pas devant nous, hein, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. C'est que tout continue comme avant. Mais notre conversation me rend optimiste, parce que je pense qu'on a cette arme-là. Et eux ne l'ont pas. Ils ont peur. Alors, ils sont très violents. Ils vont être de plus en plus violents parce qu'ils ont peur.
Oui.
Et d'une violence même bête. La violence les rend bêtes. Moi, je suis frappé par ça. On a eu des élites à principe de droite, de gauche, mais ayant certains principes, ayant un certain respect d'une règle collective. On en a encore quelques buts témoins. Quand on voit un Jacques Toubon, défenseur des droits, on se dit que c'est... Et là, on voit... comment dire, des attitudes sans vergogne, un peu, hein, et où le diplôme, voilà, n'est pas une garantie d'intelligence des situations, d'intelligence de l'époque, et voilà, bon.
Et j'avais une question qui suit ce qu'on vient de dire sur les conditions qui permettraient de rendre possible un processus constituant effectif, etc., mais l'autre question, c'est pendant ce processus constituant, on va faire de la fiction, s'il était en cours, au sens institutionnalisé du terme, c'est-à-dire hypothèse, la décision d'accomplir, d'élire une assemblée constituante est prise, une assemblée constituante est élue. Pendant le travail d'élaboration, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de confiscation à l'occasion de la représentation de ce pouvoir de délibérer, qui est un pouvoir en fait général, qui n'est pas confiné. Comment et est-ce que, à ce titre, des médias, le journalisme, n'auraient pas, de ce point de vue-là, un rôle privilégié et informé, d'ailleurs, des expériences passées, notamment Mediapart ou d'autres, voilà. Comment faire en sorte que le lien entre représentants et représentés dans l'œuvre constituante ne soit pas rompu? Est-ce que les médias n'auraient pas...
Je pense que plutôt que dire les médias, il faut d'abord dire que tout ça doit se faire d'une manière totalement publique. C'est-à-dire qu'il y a la technologie qui nous permet de faire...
C'est l'anti-boîte noire.
Public. Voilà, il n'y a pas de boîte noire. Hein. Sachant que là-dessus, moi, j'ai, de mon point de vue, hein, une réserve par rapport aux contraintes qui sont les nôtres en France, qui est est-ce qu'un processus constituant passe par je fais une assemblée constituante ou est-ce qu'il passe? Puisque, pour l'heure, le prérequis en France par l'histoire du calendrier, c'est de passer par la présidentielle, n'est pas d'arriver à faire sauter ce verrou sur la base d'un engagement très clair et à transformer, car c'est possible de transformer, pour ce qui est des premières bases, L'Assemblée nationale, si elle est issue de cette dynamique et avec une majorité importante sur cette dynamique, hein, une majorité justement qui n'est pas simplement partisane, qui est de fonder cette dynamique et que l'Assemblée nationale puisse se transformer en lieu constituant. C'est possible.
C'est ton option.
Non, ce n'est pas une option. Je dis que c'est possible parce qu'on est devant une contradiction qui est dans ce pays-ci, qui est sauf révolution, qui renverserait tout ça. Ouais. Hein, il y a ce prérequis et moi, j'ai là toujours la peur, en clair, que quelle que soit la personne qui gagnerait sur cette base-là une présidentielle, c'est qu'elle veut être maître de ce processus, parce qu'elle aura tous les pouvoirs. Elle aura, pendant ce processus, encore tous les pouvoirs. C'est une contradiction terrible. Moi, j'ai comme formule de dire que ces institutions sont plus fortes que les hommes. Ouais. Hein, et moi, mon traumatisme, je dis juste parce que souvent, ça a été une histoire de malentendu par rapport à certaines et certains. Et au fond, ceux qui sont honnêtes m'en rendent acte depuis. Je pense à Pierre Joxe et à d'autres, enfin, avec celles et ceux d'ailleurs qui ont récemment fait une tribune pour appeler à une sorte de rassemblement, de congrès d'Épinay. Moi, mon trauma professionnel, quelque part, pas mon trauma, c'est que je me retrouve tout jeune, à même pas 30 ans, quand François Mitterrand est élu président. Je pense que je suis contre la Ve République. Je suis un lecteur du coup d'État permanent, je pense qu'on va... Et moi, je me retrouve, en allant dans les boîtes noires, à chroniquer un nouveau monarque qui va étendre le pouvoir. On oublie ce détail. Le pouvoir de nomination qui pèse tant sur notre vie publique, qui fait qu'un président de la République a une armée de 3000 personnes qui nomme. Sous De Gaulle, c'était vraiment le régalien. Hein, la diplomatie, le militaire, les très grandes entreprises. Mitterrand fait ce texte qui lui permet d'étendre ça à l'été 85, en pleine affaire Greenpeace. Évidemment, cette extension du pouvoir de nomination présidentielle qui fait que le président nomme y compris le patron de l'opéra, c'est une clientèle. Et quand vous faites voiler 3000 personnes en responsabilité, c'est une clientèle, c'est là que ça se passe. Donc je dis ça juste parce que mon inquiétude, elle est celle-là. C'est-à-dire, comment arriver à créer une dynamique qui fait que la personne qui se fait élire sur cette base-là ne détourne pas. C'est ça le risque, toujours.
Mais il y a même une contradiction intrinsèque. C'est-à-dire que quelqu'un qui se ferait élire et qui dirait « on va élire une assemblée constituante », on ne peut pas, dans la phase actuelle, commencer par demander aux gens de faire une délégation de souveraineté. Aujourd'hui, les gens refusent de déléguer leur souveraineté parce qu'ils n'ont plus conscience, parce qu'ils n'ont plus confiance et parce qu'à un moment donné...
Ils ont conscience, mais ils n'ont plus confiance.
Et ils pensent qu'il faut se reconstruire et redéfinir du commun ensemble. Donc on ne peut pas commencer par une délégation de souveraineté pour élire une assemblée constituante. Mmh. L'assemblée constituante, c'est le bout du cheminement. Mais c'est le processus qui est aussi important parce que c'est lui qui nourrit, c'est lui qui matrice ce que sera ensuite le contenu de l'assemblée constituante.
On en revient à cette idée que dans ce cas-là, pour moi c'est un scénario, mais c'est qu'au fond tu as un engagement sur 10 décisions claires qui créent les conditions de ce processus et qui sont en charge de ta majorité que tu vas essayer d'avoir à l'Assemblée nationale et qui créent ces conditions, qui créent cet écosystème. Il faut créer cet écosystème.
Il faut créer cet écosystème, y compris médiatique.
Oui, bien sûr.
Et là, où sont les ingrédients
Mais ça, je pense que là, il y a une vraie question qui est... Je pense que sur les GAFA, j'ai parlé de leurs responsabilités. Que ce sont des diffuseurs, ce sont des responsables. Et ils ne peuvent pas dire qu'ils sont irresponsables.
Donc ils doivent assumer.
D'autant plus qu'on a vu comment ils peuvent accompagner des campagnes d'intoxication, Cambridge Analytica. Ils peuvent déstabiliser des pouvoirs progressistes, etc. Donc la question de leur responsabilité dans le cas des législations est très importante, encore une fois. Facebook a été au cœur de la façon dont Trump a été élu ou de Bolsonaro au Brésil. Ils ont mené comme ça. Mais il y a aussi une question, alors en France, qui est, parce que nous sommes le seul pays comme ça, où l'ensemble des médias privés sont la propriété d'industriels extérieurs au métier de l'information. Bon. Si on me demande à moi, mais on va dire que, comme le disent mes adversaires, que je suis le pire marat des temps modernes, mais je pense que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Soit, ou bien il y a une législation qui dit si le propriétaire des médias n'est pas un industriel, voilà, il n'a pas le droit de s'en mêler. Je ne sais pas, il sert une cause générale, mais il faut qu'il y ait un mur total. Hein, mais c'est quand même un vrai problème, parce que c'est ce que le fondateur du Monde, Hubert Boeuf-Méry, qui n'était pas un révolutionnaire, mais qui avait vu sous la Troisième République une presse gangrénée par l'argent, il appelait ça une presse d'industrie. Et j'aime bien la formule. Il dit oui, on est une industrie. Ce qui garantit l'indépendance de Mediapart, c'est que Mediapart ne soit pas endetté, soit rentable et ne vive que du soutien de ses lecteurs. Et si ses lecteurs l'abandonnent, Mediapart, ben, voilà, ce sera son problème. Et lui, il disait, une presse d'industrie, c'est autre chose. C'est le fait qu'il y a des intérêts extérieurs. Tu fais le meilleur journaliste que tu veux tant que tu ne te mêles pas de mes intérêts et des intérêts de mes amis. Et ça, c'est une conférence qu'il fait en 1956, qui est fondatrice des sociétés de rédacteurs, de l'indépendance, hein, etc. Et là, c'est un vrai problème. Nous on a essayé, hein, on a inventé là, ce fonds pour une presse libre, hein, essayé de faire une structure à but non lucratif. Bon, je pense que ça aussi, c'est dans l'écosystème. Il y a les services publics, et que le service public soit vraiment un service public. Il y a la question...
Notamment de l'éducation.
Oui, voilà. Non, mais je parlais sur les médias, déjà. Sur
un
les
service
médias.
Public médiatique.
Le service public des médias ouais, a des été médias, gangréné par la télé commerciale, ouais. Par etc., etc. Et ça, il y a des choses à faire. Ouais. Il y a la question de l'indépendance réelle, concrète des rédactions par rapport à leurs propriétaires. Mmh. Il y a d'aider... au développement de ce tiers secteur de médias totalement indépendants, ne vivant que
du
lectorat. Et ça, c'est ce qu'il faudrait arriver à faire. Par exemple, c'est un vrai problème. Les mêmes médias qui sont propriétés d'industriels richissimes, je pense par exemple Bernard Arnault est propriétaire du Quotidien économique et du Quotidien populaire, Les Échos et Le Parisien. Quel est le premier bénéficiaire des aides publiques à la presse? C'est-à-dire de l'argent que nous ne touchons pas, que nous refusons, hein, c'est pas qu'on ne pourrait pas, on refuse de toucher, de l'argent pris pour nos impôts pour aider ce secteur industriel en crise. Premier bénéficiaire, LVMH. Ce qui n'est pas normal ici. Tu as assez d'argent pour... Si ton journal est en difficulté et tu as voulu faire dans le journal, tu mets. On ne fait pas des aides publiques à Gucci, à Louis Vuitton, à Moët Hennessy. Donc...
Si, fiscalement, oui.
Et justement, tu disais tout à l'heure, tu prenais cette citation qui disait que tu fais le meilleur journalisme que tu veux tant que tu ne touches pas à mes intérêts, ou ceux de mes amis, sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils sont tous amis, ou quand bien même ils ne le sont pas, il y a un intérêt de caste qui surplombe le tout. Moi, j'ai une dernière petite question, si tu permets, Charlotte, parce que pour aller peut-être au bout de ce que tu disais tout à l'heure. Je m'interroge quand même comment les médias peuvent avoir et assumer ou pas, une dimension révolutionnaire, c'est-à-dire accepter l'idée d'être dans un basculement, dans un renversement de l'ordre établi. Le processus constituant est cette idée de renversement de l'ordre établi, y compris pour instituer une nouvelle légalité derrière. Et comment les médias qui sont confrontés à ça, qui sont confrontés derrière aux allers-retours des cadres institutionnels et aux allers-retours du pouvoir. On évoquait tout à l'heure l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision, qui a été le premier à commencer à faire une forme de critique du capitalisme, comme avait pu le faire avant lui Nicolas Sarkozy, en disant qu'il fallait réhabiliter les services publics, et notamment le service public de la santé, ou quand on voit qu'Emmanuel Macron est celui qui a mis en place, par exemple, un peu de tirage au sort sur la conférence sur l'écologie. Donc, autrement dit, qui reprend des éléments qui émergent du débat constituant. Et comment on peut faire, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue citoyen, pour finalement ne pas se contenter de ça et pour rester sur cette ligne de front qui, à mon sens, est nécessaire, qui est celle de la rupture avec l'ordre établi?
Je pourrais avoir une réponse individuelle de citoyen, mais je préfère répondre là où est mon engagement, le journalisme. Mais ça rejoint. Dans un précédent livre, celui sur les gilets jaunes, La victoire des vaincus, j'avais cité une phrase de Gramsci, qu'on a beaucoup cité. Non, pas de Gramsci, de Walter Benjamin. Donc, dans ses thèses sur la philosophie de l'histoire, écrite au moment de son suicide en 1940, où il critique, au fond, cette vision qui a porté les mouvements révolutionnaires, donc, qui est cette idée que l'histoire est écrite, hein. Il y a une classe révolutionnaire, le prolétariat va arriver, hein, les lendemains qui chantent, etc. Et il critique, de la même manière qu'il y a l'illusion du marché, il y a cette illusion. Non, l'histoire, elle est pleine de possibles et de bifurcations, y compris parfois de bifurcations qui peuvent être des catastrophes et créer des génocides, des réalités d'une violence inouïe. Et il dit, Marx disait, la révolution, c'est la locomotive du train de l'histoire. Hein. La locomotive du train d'histoire. L'image est intéressante. Locomotive, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, il y a une locomotive qui tire.
Qui tire.
Donc il y a quand même un sachant qui est celui qui gouverne la locomotive. Hein. Et, puis il y a des rails, il y a une direction. Et elle est déjà écrite. Hein. Et il dit, non, il s'est trompé. La révolution, c'est pas ça. La révolution, c'est le moment, et je trouve l'image à tout point de vue intéressante, où les passagers du train, alors on est d'accord, les passagers du train, ils sont différents, hein, ils sont divers. Ils votaient peut-être à droite un jour, à gauche ailleurs, pas du tout, machin, mais ils sont trouvés dans le même train. Et tout d'un coup, ils prennent conscience, tous ensemble, que le train va dans le gouffre, que le train va dans le mur. Et la révolution, c'est le moment où ils tirent le signal d'alarme pour arrêter le train. Et qui crée, du coup, une nouvelle réalité, on s'arrête. Et à ce moment-là se passe processus constituant, ce que je raconte là, des trucs qui bouleversent des gens, il y en a qui passent à la trappe, il y en a qui échappent, il y en a qui deviennent des opportunistes, il y en a, etc. C'est ce moment-là. Et moi, je dis ça par rapport à cette idée. C'est quoi une révolution ? Ben, c'est ce moment-là. Et ce n'est pas nous qui le décrétons, il arrive. Et je pense, tu le disais, qu'il y a eu un moment de ce point de vue gravement loupé par les organisations politiques, qui est la rencontre avec ce surgissement inédit du mouvement social des Gilets jaunes, hein, qui arrivait sur fond de jeunesse mobilisée sur le climat, etc. etc. Donc, pour moi, la révolution, c'est ça. Deuxièmement, qu'est-ce que nous, on doit faire ? Moi, je pense que si l'on est vraiment fidèle à ce qu'est le journalisme, c'est-à-dire être au service d'un droit fondamental des citoyens, on est forcément dans ce que j'appelle une radicalité démocratique. Et pour moi, radicalité démocratique, c'est la question de l'égalité. Et on voit combien elle est explosive aujourd'hui, toujours, hein ? L'égalité. Hein ? L'égalité, c'est le moteur de l'émancipation. C'est le déplacement de l'égalité. Et donc, pour moi, c'est dans ce moment-là, dans ce livre, je rends hommage à des figures trop oubliées. Il y a eu des grands parleurs révolutionnaires formidables. Mais il y a eu aussi, dans l'accompagnement de ce qui fait notre imaginaire de radicalité démocratique, je rappelle que ce dont nous sommes issus naît de ça, Marx commence en étant journaliste sur la répression des voleurs de bois et dit « la presse libre est l'œil du peuple », etc. Et d'ailleurs, ce sera le seul métier où il gagnera sa vie, ce sera le journaliste pour des journaux américains. Son œuvre de journaliste n'est pas du tout traduite en français, elle est très abondante. Hein. Et pourquoi je dis ça ? C'est par exemple, je rends hommage à une figure qui me plaît énormément, qui est Thomas Paine, qui est totalement oublié, qui est quand même le publiciste de trois révolutions. Il est issu de la révolution parlementaire britannique, il tire sur la monarchie qui se crispe à l'époque au XVIIIe siècle, qui refuse la publicité des assemblées, qui, etc., etc. Du coup, il choisit le camp indépendantiste américain. Il est le publiciste de la révolution américaine avec le sens commun, avec des textes qui vont être des best-sellers. Il ne va pas s'enrichir avec ça. Et puis, il arrive en France, où il reste jusqu'en 1802. Il est élu à la Convention. Il est élu. Et c'est une figure. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il est là quand la Constitution de l'an 1, elle a une déclaration des droits de l'homme de 1793. Sa définition de ce dont nous parlons, c'est un copier-coller du premier amendement de la Constitution américaine. Alors, ça choque souvent, nous, on se dit, hein, on est la révolution qui a inventé. Mais on oublie, 89-91, le premier amendement de la Constitution américaine. Et 93, et c'est un copier-coller qui dit quoi ? Qui lit trois libertés ensemble. La liberté de se réunir, on a le droit de s'assembler, de faire des pétitions, et on est au cœur de la répression de ces dernières années, on a le droit, on n'a pas à demander l'autorisation pour se réunir, pour protester, pour manifester et pour faire des pétitions contre le gouvernement. Deuxièmement, la liberté d'opinion, alors on est à la fin du XVIIIe siècle, c'est quoi la liberté d'opinion ? C'est la liberté de culte. Mais pour les gens de raison de cette époque, Thomas Paine n'était pas un croyant, n'était pas un bigot. Pour eux, c'est la croyance, c'est le cerveau humain qui le crée. Donc, c'est la liberté d'exprimer ses opinions. Et troisièmement, la liberté de la presse. Il ne sera pas fait de loi contre la liberté de la presse. C'est une loi, voilà, ce qui donnera cette phrase de Jefferson, entre un pays où il y a un gouvernement et pas de presse libre, et un pays où il y a une presse libre et pas de gouvernement, je préfère la deuxième formule. Bon, c'est-à-dire que je préfère, si vous voulez dire, ce bouillonnement démocratique. Ce n'est pas la presse dont il parle, ce n'est pas les professionnels de la presse, c'est l'espace public démocratique. Et quelle est l'histoire dont nous sommes héritières ? Parce qu'on parle de la Révolution française, mais on pourrait parler de la Commune de Paris, on pourrait parler de la Deuxième République et des batailles tout de suite après les journées de juin 48, la répression contre ce bouillonnement de la presse. Ou quand même, le Dreux-Rollin. Le Dreux-Rollin est présent dans toutes nos villes. dans toutes nos villes. Et on oublie qui est cet homme. Le Drurelin, c'est celui qui est le radical démocrate qui oblige ses camarades à passer vraiment à la Deuxième République et à faire l'abolition de l'esclavage. Il est contre la répression par Cavaignac, hein, des ateliers nationaux et tout. Il part en exil avant le coup d'État. Et il fait quoi comme texte? Plus de président, plus de représentant. Et il revient à cette idée. C'est un texte, un petit texte totalement rousseauiste qui reprend ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne dit pas qu'il y a des gens qu'il doit faire, mais il doit faire en permettant, en évitant la professionnalisation qui... Voilà. Alors, c'est peut-être une utopie, mais il n'y a pas de liberté, d'invention plutôt, d'émancipation, et surtout dans notre temps troublé, sans faire revivre la flamme vivante de cette utopie. Et merci qu'on puisse en parler. Voilà.
Bah, je crois que c'est une belle conclusion. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci beaucoup. Moi, ce que je voudrais quand même vous dire, qu'en fait, on peut associer les deux, en fait, si on regarde ça, c'est que le peuple doit sa sauvegarde au droit de savoir, finalement. Et il me semble que c'est aussi donc, par ce type de réflexion-là qu'on a ensemble sur ce processus constituant et son écosystème. Moi, j'aime bien cette idée de créer les conditions d'une possibilité qu'il adviennent et qu'ils produisent quelque chose.
C'est écosystème, c'est presque comme une écologie.
Comme une écologie politique. Et politique,
et
tout à fait.
Je termine par l'arbre de la liberté. La Révolution française, c'était l'arbre. Et l'arbre de la liberté, c'est l'horizontalité. Nous, on pense tout comme nous sommes verticales. On nous coupe la tête, on n'existe plus. Alors que l'arbre, on lui coupe une racine, on lui coupe une branche, il continue. Ouais. Le tout et la partie, ils sont imbriqués. Ouais. Voilà.
Et donc, cette discussion, finalement, elle continue. Et donc, je crois savoir, tu pourrais nous dire peut-être, François, que Sacha, Mokritsky,
vous avez... Il y a toujours l'ouvrage des constituants que vous connaissez, qui s'appelle Le Temps constituant, qui est toujours en librairie ou à commander. Et puis, avec Sacha, que vous voyez régulièrement autour de cette table, on sort un petit livre que vous allez voir apparaître à l'écran, qui s'appelle Retraite, impasse et perspective vers le mouvement populaire. Et on se livre un récit, une analyse un petit peu en temps réel et à chaud de ce qu'a été le mouvement contre la réforme des retraites, en quoi il s'est, à notre sens, fourvoyé, et puis on livre des pistes parce qu'il y aura d'autres irruptions populaires et Macron n'ira pas au bout de son mandat dans une forme de linéarité, donc l'histoire reste à écrire.
Parfait. Bon, en tout cas, merci aussi au comptoir du marché qui nous accueille ce matin. Et à la prochaine fois pour une nouvelle édition de Quartier Constituant. Salut.